Voilà, merci Johan pour ce troisième portrait. J'espère que s'il y a une publication, tu n'oublieras pas de mettre les guillemets partout, parce que pour les citations, c'est un peu dangereux. Alors, on va terminer cette première session avec une communication, cette fois de Samuel Etienne, et on va quitter les portraits de groupe, cette fois pour s'intéresser un peu à la presse. Et donc, puisque Samuel Etienne va nous parler de l'évolution de la presse punk en France depuis 1976.
Bonjour à tous. Donc effectivement, je ne vais pas passer 10 minutes à vous dire qu'un quart d'heure, c'est pas assez. Le programme PIND est à son début, on va dire, en tant que programme financé. Mais par contre, pendant 2 ans, ça a été un programme totalement DIY, mené de main de maître par Luc et Solveig. Je dis ça, ils s'en vont. Et j'ai eu l'occasion de faire 2 communications sur les fanzines DIY d'abord, et ensuite sur la presse punk française en 76-78. Donc je vais pas revenir en détail là-dessus. Je vais essayer, puisque c'est aussi un travail qui est en chantier, de vous présenter des hypothèses de travail sur la sectorisation, on va dire, historique de cette presse punk en France, en précisant une chose, c'est que je ne suis pas du tout historien. Donc, les fanzines, vous les connaissez peut-être. Donc, les fanzines, ce qui les caractérise, c'est qu'il y a 3 grands critères par rapport, on va dire, aux sciences de la communication, à la théorie des médias, c'est qu'ils sont déprofessionnalisés, décapitalisés, désinstitutionnalisés. Donc ça, aux yeux des sciences de la communication, c'est plutôt des handicaps, on va dire des tares congénitales. Et plus il y en a, ben plus on a une portée médiatique qui est faible. Et la magie, finalement, des fanzines DIY, c'est de s'être appuyé sur ces tares et de les détourner, de les contourner pour en faire un média que j'appelle un petit peu génial, c'est-à-dire qui a réussi à porter la voix notamment du punk. Donc ça, ce sont les marqueurs alternatifs. Alors premier constat également, c'est que l'explosion du punk à Londres s'est accompagnée à l'été 76 d'une prolifération de nouveaux médias écrits, hein, ce qu'on appelait les fanzines DIY, le fanzine... Le plus connu, c'est Sniffing Glue de Mark Perry. C'est pas historiquement, c'est pas le premier, mais c'est bien celui qui constamment, à chaque numéro, va inciter ses lecteurs à dire, à faire des fanzines, à dire ne vous contentez pas de ce que vous lisez, faites des fanzines, allez interviewer les groupes, inondez la presse, Melody Maker Enemy, d'écrits punk. Il faut prendre le pouvoir. Et ça, pendant 1 an et ses 12 numéros, Mark Perry et son collègue ne vont jamais cesser de le répéter. Donc, si les Sex Pistols ont échoué à semer l'anarchie au UK en 76-77, par contre, Mark Perry, lui, a réussi à créer une véritable zinarchie dans le Royaume-Uni, puisqu'on va avoir des centaines de titres qui vont naître en 1 an un peu partout sur le territoire. Et ensuite, le modèle va s'exporter de manière internationale. Une des raisons qui peut expliquer, il y en a beaucoup, mais l'une des principales, c'est ce qu'on appelle le facteur Xerox, c'est-à-dire que la photocopieuse qui est inventée à la fin des années 30 va devenir démocratique. Entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va trouver des petits photocopieurs qui pèsent moins de 90 kilos dans les entreprises, un petit peu partout. Donc, le commun des mortels a accès à la photocopieuse. Et puis, quand le bureau est fermé, le midi, entre midi et deux, il va faire des photocopies et pouvoir reproduire à moindre coût nul, son fanzine. En plus, ce facteur Xerox, il va créer une esthétique, une identité graphique un petit peu particulière. Les photocopies sont pas de très bonne qualité, elles sont plutôt crades. Et ça, justement, ça vient un petit peu en écho à l'imagerie, l'esthétique que veulent renvoyer les individus punk. Donc, il y a vraiment une homologie entre le fanzine DIY et le DIY et le punk lui-même. Deuxième constat, c'est qu'en France, il faut attendre le tournant des années 80 pour voir cette prolifération des fanzines DIY. Il n'y a pas, jusqu'en 79, 80, on n'a pas beaucoup de fanzines DIY du modèle Sniffing Glue. Il faut attendre un peu plus tard. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette différence, ce déphasage entre la France et l'Angleterre? Eh bien, une des raisons principales de création d'un fanzine, quand on interroge les fanzineurs, c'est la frustration. La frustration par rapport à l'information punk et au fait que les masses médias ne parlent pas ou mal ou insuffisamment des groupes punk. Je prendrai juste un exemple pour l'illustrer. Et puis ensuite, je déclinerai en France les 4 périodes que je propose pour analyser la presse punk sur notre territoire. Donc, qui cause punk en France en 76? Il y a eu un article de Luc et Solveig il n'y a pas très longtemps. On a Rock and Folk et Best, mais ils n'en parlent pas très bien. Vous voyez l'essentiel, hein, les Ramones, c'est le degré zéro du rock, fut-il punk, et je veux bien être pendu si en fait les Ramones ne sont pas le groupe le plus propre et le moins dangereux du monde. C'est ça que peuvent lire les amateurs de punk dans la grande presse, française. Du coup, frustration. Du coup, création de nouveaux médias. Alors, il y a des fanzines, je vous le disais tout à l'heure, il y en a très peu, des fanzines DIY, modèle Sniffing Glue, mais il y a des fanzines qui sont pas photocopiées, comme I Wanna Be Your Dog, hein, qui naît comme le fanzine, le bulletin du fan club d'Iggy Pop, mais qui en fait, dès le départ, vous avez là le numéro 1, ne va pas parler que d'Iggy Pop, on va parler des Sex Pistols, on a le festival de Mont-de-Marsan, hein, qui est avec un reportage, etc. C'est quand même tiré à 2000 exemplaires, donc c'est pas le Sniffing Glue à 50 exemplaires. Et puis une particularité, c'est que ce fanzine français connaît une déclinaison américaine, qui est traduite et qui sort ensuite en Californie à New York, tout simplement parce que l'un des collaborateurs, Philippe Mogan, vit en Californie. Donc ça, c'est assez exceptionnel aussi d'avoir un fanzine français, hein, qui est décliné aux États-Unis dès 76. Ensuite, on a une catégorie qu'on appelle les prosines, c'est-à-dire les fanzines qui ont un petit peu de moyens, notamment au niveau de l'impression. C'est Atem, qui n'est pas un fanzine punk à proprement parler, c'est plutôt du rock expérimental, Eldon, ce genre de choses, mais qui va être le premier, en décembre 75, à parler du punk et à dire qu'en France, à parler des fanzines punk américains, anglais, et à dire qu'en France, c'est encore le désert. Là, en décembre 75, et à partir de janvier 76, eh bien, on a une presse punk, une nouvelle presse punk faite par des amateurs, ici Rock News avec Michel Esteban et Lizzie Mercier. Là encore, eux, ils vont s'appuyer sur leur réseau new-yorkais pour être branchés directement sur le CBGB et parler du punk new-yorkais en France dès janvier 76. On est bien avant Sniffing Glue en Angleterre. Et puis, le numéro 4 sera consacré au punk anglais et au punk français. On a ensuite une presse magazine qui, elle, naît à partir de 1977, donc il y a un petit peu un an de décalage par rapport aux fanzines, mais on a une presse en kiosque, hein, distribuée par les NMPP, qui va faire comme créneau éditorial le punk en France, le punk français, et donc finalement, les amateurs de punk français peuvent trouver de l'information sur les groupes punk en kiosque. Hein, on a aussi Feeling, hein, qui était édité par Cinafiche, qui est un éditeur de revues pornographiques, et qui, en publiant Feeling, permettait de sortir de la catégorie des journaux pour adultes et bénéficier de frais de routage plus intéressants. Hein, donc il y a aussi des raisons économiques à la création de Feeling, avec une mise en page qui est assez classique pour le numéro 1, mais dès le numéro 2, ils ont bien compris que les codes esthétiques du punk, c'est tout mettre en l'air, hein, on découpe les morceaux de papier, on les colle dans tous les sens. Donc là, on a cette esthétique des fanzines anglais, hein, qui commence à transformer dans la presse française. On arrive aux années 80 et là c'est vraiment l'explosion des fanzines DIY en France. Alors, fanzine punk ou rock alternatif, c'est vrai que personnellement je parlais plus de rock alternatif également, parce que quand on regarde le contenu et même comment ils s'auto-définissent, on trouve le mot punk, mais beaucoup plus souvent, on trouve le mot rock alternatif. Donc vous avez des fanzines très anciens, Spliff par exemple, hein, associé au disquaire Clermontois, Clermont-Ferrand, hein, qui naît sous la forme d'une feuille A4 recto verso tapée à la machine pour le numéro 1, et puis ensuite qui enchaîne avec un petit bulletin, ensuite ça devient un label, Hello Happy Taxpayers de Bordeaux, 19, Kalachnikov, etc. Donc là, on a un modèle esthétique qui copie le modèle anglais, hein, qui est fait vraiment par des amateurs, c'est écrit à la main, c'est découpé, c'est collé, c'est photocopié, c'est un petit peu crade. On a cette nouvelle presse DIY en France. Avec, vous voyez ici, pour On n'est pas des sauvages, une politique bien particulière. Notre politique, c'est le French rock. Vous voyez, on ne dit pas le French punk, hein, c'est le French rock. C'est-à-dire, on va vous informer systématiquement sur les groupes français. Ils vont mettre 8 numéros à se dire, voilà, il faut se spécialiser là-dessus parce qu'il manque quelque chose, il manque de l'information sur cette nouvelle scène française en train de naître. Donc vous voyez ici un extrait de On a faim au niveau esthétique, Gratte-toi le cul droit des verrues, fanzine nantais, le pareil. Vous voyez aussi la qualité, hein, qui est assez mauvaise, de la photocopieuse qu'on va utiliser. Avec ici un compte-rendu du premier festival punk à Nantes, 18 août 84, comme Intern Sect, les collabos, enfin une Kronstadt Disorder, etc. Deuxième période, on a encore toujours ce même modèle hein, qui persiste avec dans les motivations, bah, c'est toujours la même chose, c'est que la presse nationale ne parle pas des nouveaux groupes. Il y a toujours un temps de retard dans la presse nationale qui fait qu'il y a des fanzines qui sont là pour porter la voix de ces nouveaux groupes qui sont en train d'émerger les uns après les autres. Vous voyez The Gossip en haut, je ne sais pas si vous arrivez à lire, le contenu c'est ska, punk, Oi, rock alternatif et hard rock. Ce sont des fanzines généralistes et pas forcément spécialisées punk comme pouvaient l'être les fanzines anglais. Il y a une petite phase de transition qui sera peut-être à préciser du point de vue historique où on va avoir bah, des fanzines qui sont totalement DIY comme On a faim, qui passent au post-DIY, le terme est un peu mal choisi, enfin je n'ai pas trouvé de meilleur terme pour le moment, c'est-à-dire ils commencent à se professionnaliser. Et donc on a fait une nouvelle série là, qui passe en impression offset. Donc, tout de suite il faut une trésorerie plus importante, il faut une distribution, des retours sur vente, etc. Et souvent ce sont des entreprises assez périlleuses et qui durent peu. Les années 2000, alors là, les années 2000, bah, c'est comme le vinyle, hein, le papier est mort, vive Internet, hein, le vinyle est mort, vive les CD et puis ensuite le numérique. Et puis ce qu'on constate, c'est que bon, le papier, il n'est pas forcément mort, puisque au contraire, là, on a une presse professionnelle qui s'empare du punk. Hein, Cyberpress Publishing, Rocksound, qui deviendra un gros éditeur de presse, ensuite XO, avec notamment bah, Punk Rock, avec tous ces magazines qui sont pas sur du punk à proprement parler, mais qui font un petit peu le mélange des genres, hein, qui parlent de noise, qui parlent de grunge, tout est mélangé, mais en tout cas, tout ce qui est un petit peu bruyant peut être couvert par une presse nationale. Et puis on a aussi des fanzines, là encore, punk, qui sont un peu plus professionnels, comme Worse, comme Walking Line, des aventures un peu plus éphémères, comme Kick-Ass, qui avait été édité sur Cannes, qui a duré 6 numéros, et c'était un fabricant de vêtements pour skaters, etc. Et puis, vous laissez faire plaisir, ils ont fait un magazine sur le punk pendant 5-6 numéros. Ces magazines qui traitent du punk, finalement, ça crée un débat dans la communauté, on va dire, punk underground, qu'on retrouve dans les fanzines, qu'on retrouve sur les webzines aussi au début des années 2000, avec une certaine illégitimité. C'est le débat sur punk rock. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Oui, ça parle du punk, bah ouais, mais c'est quand même le grand capital, c'est la presse, etc. Donc il y a ce côté, ils sont illégitimes, vous voyez, dans Vendetta. À l'heure où la scène se passionne pour un certain magazine couleur, il est plus que jamais nécessaire de soutenir les zines, etc. Nous pensons que l'esprit non-profit est la seule véritable garantie que cela continuera quand les intérêts commerciaux auront disparu, les chroniques sont plus sincères, etc. etc. Alors ce qui est un vrai débat au sein de la scène punk au début des années 2000, parce que l'éditeur en chef de Punk Rock, c'est Frank Frejnik, hein, qui signe l'article sur les Tugs, qui lui vient du fanzine Violence. C'est un pur produit du fanzina, aujourd'hui associé dans le label 19 Something. On a aussi, à cette même période, parallèlement à cette presse, on va dire, nationale punk, eh bien, on a l'apparition des webzines punk. Et là, pour le coup, on pourrait se dire, ah oui, les fanzines photocopiées, bon, il faut pas beaucoup de savoir-faire. Dessiner, découper, coller, on apprend ça en maternelle. Donc finalement, c'est assez élémentaire. Par contre, faire un site internet, c'est un peu plus compliqué. Et en fait, bah non, on se rend compte que très vite, on a des sur le mode DIY, on a des punks qui créent des webzines et qui s'en servent essentiellement, ils le disent, pour faire du réseautage, c'est-à-dire pour diffuser de l'information, ce qui était le rôle premier des fanzines. Alors certains, comme Earthquake, c'est juste pour faire la promo du fanzine, mais l'essentiel, ça reste le support papier. Donc là, il y a un petit peu un débat dans la scène, certains fanzines qui arrêtent, qui deviennent des webzines, d'autres qui font l'aller-retour. Hein, on a une période comme ça, un petit peu de transition. Et puis on a toujours quand même hein, des fanzines punk DIY papier, alors des nouveaux qui vont apparaître, qui vont suivre les nouvelles scènes, notamment hardcore, qui assez vivace dans les années 90-2000 en France, Deviance, Punk System. Des survivants, hein, comme Rock Hardy, qui existe depuis 1982 et qui existe toujours, Et puis bah, d'autres, hein, alors parmi les nouveaux, on a à Clermont-Ferrand, Kangourouzine, on a à l'arrache, avec ce qu'on commence à voir aussi des fanzines de plus en plus spécialisées. Vous voyez, à l'arrache, c'est un zine anarcho-punk antispéciste. On est là dans une sélection de l'information et des groupes. Tel groupe, s'il défend pas, s'il n'est pas vegan, ben on n'en parle pas parce qu'il parle de viande, etc. Donc il y a vraiment une radicalisation aussi des propos dans certains fanzines. Hein. Pas tous, mais dans certains. Et puis dans la, on a commencé à avoir des fanzines gratuits comme Kérosène, financées par la publicité. Alors dans cette mouvance punk à roulette, Dead Pop Club, Second Rate, etc. Donc né à Nancy et puis ensuite assez actif sur Montaigu, je pense que ils en parleront peut-être demain matin, Emmanuel et Jérôme Guibert. Et puis bah pour terminer, pour terminer les années 2010, c'est l'actuel. Eh bien, ce que je constaterais, c'est qu'on a toujours des survivants, hein, des vrais survivants, Abus Dangereux, qui est rendu à 140 numéros, alors là, qui est un fanzine qui tient le rythme d'une publication tous les deux mois depuis 1983-84, quelque chose comme ça. Rockardy, depuis 82. Un peu moins une fréquence un peu moins élevée, mais quand même 50e numéro qui va paraître. Une nouvelle génération de fanzines DIY, comme Molo Bobby sur le Destroy à Rennes, Lily Bazooka, Lily Pnuk sur Paris, où là, on est finalement sur les interviews, les chroniques, le contenu assez classique, mais aussi un côté un petit peu retour en arrière. On commence à interviewer les groupes qui existaient il y a 30 ans, il y a 40 ans. Donc il y a ce côté, finalement, on écrit l'histoire du punk, mais des vieux punks, des vieux groupes, alors qu'auparavant, dans les fanzines, on avait plutôt l'histoire, l'écrire l'histoire au quotidien du punk. Et puis on a un fanzine comme Punk Culture, un petit peu particulier, fanzine quadrichromie d'assez bonne qualité, édité par Mass Prod, le label punk breton. Et là aussi, c'est plutôt le fanzine en tant que support promotionnel des groupes, notamment signés sur Mass Prod. Et puis, on a 19, l'anthologie. Donc là, vous voyez, il y a ce retour en arrière, cette patrimonialisation, finalement, des écrits punk qui sont compilés dans les ouvrages. Et autrement, on a des fanzines un peu plus généralistes qui ne sont pas forcément que sur la musique punk, mais sur la culture punk en général. Alors ça peut aussi ne pas parler de musique, ou très peu, comme Les Drugs, More Pills, ou au contraire, avoir apporté un regard plus réflexif, plus profond sur la culture punk, comme dans Chéri Bibi. Donc voilà, j'ai essayé d'être très rapide, de respecter le temps. Sur la sectorisation, on va dire historique, je proposerai comme hypothèse de travail à développer dans le programme à venir. Sur les deux premiers points, hein, qu'est-ce que les fanzines DIY, et puis la nouvelle presse punk 76-78, j'ai auto-édité un ouvrage, hein, Punk's Not Dead, le business non plus, donc il y a un ouvrage qui sera auto-édité, qui sera disponible tout à l'heure, qui s'appelle Bricolage Radical. Voilà, merci.